Il y a des gens chez qui les choses ne se passent pas ainsi. C'est ou bien que leur nature les soustrait à la peur, que leur chair, leur sang et leurs entrailles sont insensibles à la présence de la mort ou de la douleur, ou bien qu'il y a un tel degré d'unité dans leur âme que ce fabricateur de raisonnement n'a pas la possibilité d'y travailler. Chez d'autres encore, il travaille, il fait sentir sa persuasion, mais elle est pourtant méprisée. Cela même suppose soit un degré déjà élevé d'unité intérieure, soit des stimulants extérieurs puissants. L'observation géniale d'Hitler sur la propagande, à savoir que la force brutale ne peut pas l'emporter sur des idées si elle est seule, mais qu'elle y parvient aisément en s'adjoignant quelques idées d'aussi basse qualité qu'on voudra, cette observation fournit aussi la clé de la vie intérieure. Les tumultes de la chair, si violents soient-ils, ne peuvent pas l'emporter dans l'âme sur une pensée s'ils sont seuls. Mais leur victoire est facile s'ils communiquent leur puissance persuasive à une autre pensée, si mauvaise soit-elle. C'est ce point qui est important. Aucune pensée n'est de qualité trop médiocre pour cette fonction d'allié de la chair. Mais il faut à la chair de la pensée pour allier. C'est pourquoi, alors qu'en temps ordinaire, les gens, même cultivés, vivent sans aucun malaise avec les plus énormes contradictions intérieures, dans les moments de crise suprême, la moindre faille dans le système intérieur acquiert la même importance que si le philosophe le plus lucide se tenait quelque part, malicieusement prêt à en profiter. Et il en est ainsi chez tout homme, si ignorant soit-il. Dans les moments suprêmes, qui ne sont pas nécessairement ceux du plus grand danger, mais ceux où l'homme se trouve devant le tumulte des entrailles, du sang et de la chair, seul et sans stimulants extérieurs, ceux dont la vie intérieure procède tout entière d'une même idée sont les seuls qui résistent. C'est pourquoi les systèmes totalitaires forment des hommes à toute épreuve. La patrie ne peut être cette idée unique que dans un régime du genre hitlérien. Cela pourrait facilement être prouvé, jusque dans les détails. Mais c'est inutile, tant l'évidence est grande. Si la patrie n'est pas cette idée, et si néanmoins elle tient une place, alors, ou bien il y a incohérence intérieure et une faiblesse cachée dans l'âme, ou bien il faut qu'il y ait quelque autre idée dominant tout le reste et relativement à laquelle la patrie tienne une place bien clairement reconnue, place limitée et subordonnée. Ce n'était pas le cas dans notre Troisième République. Ce n'était le cas dans aucun milieu. Ce qui se trouvait partout, c'était l'incohérence morale. Aussi, le fabricateur intérieur de raisonnement fut-il actif dans les âmes entre 1914 et 1918. La plupart résistèrent en un raidissement suprême, par cette réaction qui pousse souvent les hommes à se jeter aveuglément, par crainte de se déshonorer, du côté opposé à celui où pousse la peur. Mais l'âme, quand elle s'expose à la douleur et au danger sous l'effet de cette impulsion seulement, s'use très vite. Ces raisonnements nourris d'angoisse, qui n'ont pas pu influer sur la manière d'agir, mordent d'autant plus sur les profondeurs même de l'âme, et leur influence s'exerce après coup. C'est ce qui s'est passé après 1918. Et ceux qui n'avaient rien donné et en avaient honte ont été prompts, pour d'autres motifs, à saisir la contagion. Cette atmosphère entourait les enfants, à qui, un peu plus tard, on allait demander de mourir. Combien loin est allée la désagrégation intérieure chez les Français, On peut s'en rendre compte si l'on songe qu'aujourd'hui encore, l'idée de la collaboration avec l'ennemi n'a pas perdu tout prestige. D'un autre côté, si l'on cherche un réconfort dans le spectacle de la résistance, si l'on se dit que les résistants n'ont aucune difficulté à trouver leur inspiration à la fois dans le patriotisme et dans une foule d'autres mobiles, il faut en même temps se dire et se redire que la France, en tant que nation, se trouve en ce moment aux côtés de la justice, du bonheur général et des choses de ce genre, c'est-à-dire dans la catégorie des belles choses qui n'existent pas. La victoire alliée la sortira de cette catégorie, la rétablira dans le domaine des faits. Beaucoup de difficultés qui semblaient écartées reparaîtront. En un sens, le malheur simplifie tout. Le fait que la France est entrée dans la voie de la résistance plus lentement, plus tard que la plupart des pays occupés, montre qu'on aurait tort d'être sans inquiétude pour l'avenir. On peut voir clairement jusqu'où allait l'incohérence morale de notre régime si l'on songe à l'école. La morale y fait partie du programme, et même les instituteurs qui n'aimaient pas en faire l'objet d'un enseignement dogmatique l'enseignaient inévitablement d'une manière diffuse. La notion centrale de cette morale, c'est la justice et les obligations qu'elle impose envers le prochain. Mais quand il est question d'histoire, la morale n'intervient plus. Il n'est jamais question des obligations de la France à l'extérieur. Quelquefois, on la nomme juste et généreuse, comme si c'était là un surcroît, une plume de plus au chapeau, un couronnement à la gloire. Les conquêtes qu'elle a faites et perdues peuvent à la rigueur être l'objet d'un léger doute, comme celle de Napoléon. Jamais celle qu'elle a conservée. Le passé n'est que l'histoire de la croissance de la France, et il est admis que cette croissance est toujours un bien à tous égards. Jamais on ne se demande si, en s'accroissant, elle n'a pas détruit. Examiner s'il ne lui est pas peut-être arrivé de détruire des choses qui la valaient semblerait le plus affreux blasphème. Bernanos dit que les gens d'Action française regardent la France comme un marmot à qui on ne demande que de grandir, de prendre de la chair. Mais il n'y a pas que. C'est la pensée générale qui, sans jamais être exprimée, est toujours implicite dans la manière dont on regarde le passé du pays. Et la comparaison avec un marmot est encore trop honorable. Les êtres auxquels on ne demande que de prendre de la chair, ce sont les lapins, les porcs, les poulets. Platon a le mot le plus juste en comparant la collectivité à un animal. Et ce que son prestige aveugle, c'est-à-dire tous les hommes, hors les prédestinés, appelle juste et belle les choses nécessaires, étant incapable de discerner et d'enseigner quelle distance il y a entre l'essence du nécessaire et celle du bien. On fait tout pour que les enfants sentent, et ils le sentent d'ailleurs naturellement, que les choses relatives à la patrie, à la nation, à l'accroissement de la nation, ont un degré d'importance qui les met à part des autres. Et c'est précisément au sujet de ces choses que la justice, les égards dus à autrui, les obligations rigoureuses assignant des limites aux ambitions et aux appétits, toute cette morale à laquelle on s'efforce de soumettre la vie des petits garçons, n'est jamais évoquée. Que conclure de là, sinon qu'elle est au nombre des choses d'importance moindre, que, comme la religion, le métier, le choix d'un médecin ou d'un fournisseur, elle a sa place dans le domaine inférieur de la vie privée? Mais si la morale proprement dite est ainsi abaissée, il ne s'y substitue pas un système différent. Car le prestige supérieur de la nation est lié à l'évocation de la guerre. Il ne fournit pas de mobile pour le temps de paix, excepté dans un régime qui constitue une préparation permanente à la guerre, comme le régime nazi. Excepté dans un tel régime, il serait dangereux de trop rappeler que cette patrie qui demande à ses enfants leur vie a pour autre face l'État avec ses impôts, ses douanes, sa police. On s'en abstient soigneusement, et ainsi il ne vient à l'idée de personne que ce puisse être manqué de patriotisme que de haïr la police et de frauder en matière de douanes et d'impôts. Un pays comme l'Angleterre fait dans une certaine mesure exception, à cause d'une tradition millénaire de liberté garantie par les pouvoirs publics. Ainsi, la dualité de la morale en temps de paix affaiblit le pouvoir de la morale éternelle, sans rien mettre à sa place. Cette dualité est présente d'une manière permanente, toujours, partout, et non pas seulement à l'école. Car il arrive presque journellement, en temps normal, à tout Français, quand il lit le journal, quand il discute en famille ou au bistrot, de penser, pour la France, au nom de la France. Dès cet instant, et jusqu'à ce qu'il revienne dans son personnage privé, il perd jusqu'au souvenir des vertus dont il admet, d'une manière plus ou moins vague et abstraite, l'obligation pour lui-même. Quand il s'agit de soi-même, et même de sa famille, il est plus ou moins admis qu'il ne faut pas trop se vanter soi-même, qu'il faut se défier de ses jugements lorsqu'on est à la fois juge et partie, qu'il faut se demander si les autres n'ont pas au moins partiellement raison contre soi-même, qu'il ne faut pas trop se mettre en avant, qu'il ne faut pas penser uniquement à soi-même. Bref, qu'il faut mettre des bornes à l'égoïsme et à l'orgueil. Mais en matière d'égoïsme national, d'orgueil national, non seulement il y a une licence illimitée, mais le plus haut degré possible est imposé par quelque chose qui ressemble à une obligation. Les égards envers autrui, l'aveu des torts propres, la modestie, la limitation volontaire des désirs, deviennent dans ce domaine des crimes, des sacrilèges. Parmi plusieurs paroles sublimes que le livre des morts égyptiens met dans la bouche du juste après la mort, la plus touchante peut-être est celle-ci. « Je ne me suis jamais rendu sourd à des paroles justes et vraies. » Mais sur le plan international, chacun regarde comme un devoir sacré de se rendre sourd à des paroles justes et vraies, si elles sont contraires à l'intérêt de la France. Ou bien, admettons que des paroles contraires à l'intérêt de la France ne peuvent jamais être justes et vraies? Cela reviendrait exactement au même. Il y a des fautes de goût que la bonne éducation, à défaut de la morale, empêche de commettre dans la vie privée, et qui semblent absolument naturelles sur le plan national. Même les plus odieuses des dames patronesses hésiteraient à rassembler leurs protégés pour leur exposer dans un discours la grandeur des bienfaits accordés et de la reconnaissance due en échange. Mais un gouverneur français d'Indochine n'hésite pas, au nom de la France, à tenir ce langage, même immédiatement après les actes de répression les plus atroces ou les famines les plus scandaleuses. Et il attend, il impose des réponses qui lui fassent écho. C'est une coutume héritée des Romains. Ils ne commettaient jamais de cruauté, ils n'accordaient jamais de faveur, sans vanter, dans les deux cas, leur générosité et leur clémence. On n'était jamais reçu à leur demander quoi que ce fût, même un simple allégement à la plus horrible oppression, sans débuter par les mêmes éloges. Ils ont ainsi déshonoré la supplication, qui était honorable avant eux, en lui imposant le mensonge et la flatterie. Dans l'Iliade, jamais un Troyen agenouillé devant un Grec et implorant la vie ne met la plus légère nuance de flatterie dans son langage. Notre patriotisme vient tout droit des Romains. C'est pourquoi les petits Français sont encouragés à en chercher l'inspiration dans Corneille. C'est une vertu païenne, si les deux mots sont compatibles. Le mot de païen, quand il est appliqué à Rome, a vraiment, à titre légitime, la signification chargée d'horreur que lui donnaient les premiers polémistes chrétiens. C'était vraiment un peuple athée et idolâtre, non pas idolâtre de statues faites en pierre ou en bronze, mais idolâtre de lui-même. C'est cette idolâtrie de soi qu'il nous a léguée sous le nom de patriotisme. Aussi, la dualité dans la morale est-elle un scandale bien plus éclatant si, au lieu de la morale laïque, on songe à la vertu chrétienne, dont la morale laïque est d'ailleurs simplement une édition pour grand public, une solution diluée. La vertu chrétienne a pour centre, pour essence, pour saveur spécifique, l'humilité, le mouvement librement consenti vers le bas. C'est par là que les saints ressemblent au Christ. Étant dans la condition de Dieu, il n'a pas regardé l'égalité avec Dieu comme un butin. Il s'est vidé. Bien qu'il soit le Fils, ce qu'il a souffert lui a enseigné l'obéissance. Saint Paul aux Philippiens. Mais quand un Français pense à la France, l'orgueil est pour lui un devoir, selon la conception actuelle. L'humilité serait une trahison. Cette trahison est celle peut-être qu'on reproche le plus amèrement au gouvernement de Vichy. On a raison, car son humilité est de mauvais aloi. Elle est celle de l'esclave qui flatte et ment pour éviter les coups. Mais, dans ce domaine, une humilité qui serait de bon aloi est parmi nous chose inconnue. Nous n'en concevons même pas la possibilité. Pour parvenir seulement à en concevoir la possibilité, il nous faudrait déjà un effort d'invention. Dans une âme chrétienne, la présence de la vertu païenne du patriotisme est un dissolvant. Elle est passée de Rome entre nos mains sans avoir été baptisée. Chose étrange, les barbares, ou ceux qu'on nommait ainsi, ont été baptisés presque sans difficulté lors des invasions. Mais l'héritage de la Rome antique ne l'a jamais été, sans doute parce qu'il ne pouvait pas l'être. Et cela, bien que l'Empire romain ait fait du christianisme une religion d'État. Il serait difficile d'ailleurs d'imaginer une plus cruelle injure. Quant aux barbares, il n'est pas étonnant que les Goths soient entrés facilement dans le christianisme si, comme le croyaient les contemporains, ils étaient du sang de ces Geths, les plus justes des Thraces, qu'Hérodote nommait les immortaliseurs à cause de l'intensité de leur foi dans la vie éternelle. L'héritage des barbares s'est mélangé à l'esprit chrétien pour former ce produit unique, inimitable, parfaitement homogène, qu'on a nommé la chevalerie. Mais entre l'esprit de Rome et celui du Christ, il n'y a jamais eu fusion. Si la fusion avait été possible, l'Apocalypse aurait menti en représentant Rome comme la femme assise sur la bête, la femme pleine des noms du blasphème. La Renaissance a été une résurrection, d'abord de l'esprit grec, puis de l'esprit romain. C'est dans cette seconde étape seulement qu'elle a agi comme un dissolvant du christianisme. C'est au cours de cette seconde étape qu'est née la forme moderne de la nationalité, la forme moderne du patriotisme. Corneille a eu raison de dédier son Horace à Richelieu, et de le faire en termes dont la bassesse est un pendant à l'orgueil presque délirant qui inspire la tragédie. Cette bassesse et cet orgueil sont inséparables. On le voit bien aujourd'hui en Allemagne. Corneille lui-même est un excellent exemple de l'espèce d'asphyxie qui saisit la vertu chrétienne au contact de l'esprit romain. Son polyeucte nous paraîtrait comique si nous n'étions pas aveuglés par l'habitude. Polyeucte, sous sa plume, est un homme qui tout d'un coup a compris qu'il y a un territoire beaucoup plus glorieux à conquérir que les royaumes terrestres et une technique particulière pour y parvenir. Aussitôt, il se met en devoir de partir pour cette conquête sans aucun égard pour quoi que ce soit d'autre, et dans le même état d'esprit que lorsque, auparavant, il faisait la guerre au service de l'empereur. Alexandre pleurait, dit-on, de n'avoir à conquérir que le globe terrestre. Corneille croyait apparemment que le Christ était descendu sur terre pour combler cette lacune. Si le patriotisme agit invisiblement comme un dissolvant pour la vertu soit chrétienne, soit laïque, en temps de paix, le contraire se produit en temps de guerre, et c'est tout à fait naturel. Quand il y a dualité morale, c'est toujours la vertu exigée par les circonstances qui en subit le préjudice. La pente à la facilité donne naturellement l'avantage à l'espèce de vertu qu'en fait il n'y a pas lieu d'exercer. À la moralité de guerre en temps de paix, à la moralité de paix en temps de guerre. En temps de paix, la justice et la vérité, à cause de la cloison étanche qui les sépare du patriotisme, sont dégradées au rang des vertus purement privées, telles que par exemple la politesse. Mais quand la patrie demande le sacrifice suprême, cette même séparation prive le patriotisme de la légitimité totale qui peut seule provoquer l'effort total.